Bonjour et bienvenue au coin de la table, la chronique protige qui casse le jeu de rôle et le jeu de plateau et d'autres trucs.
Qui démonte, non?
Qui démonte. C'est
parce
vrai que tu
que
casses, tu démontes. Non, mais c'est la fin de saison.
On
on
a
arrête
arrêté
de
de
démonter,
démonter.
on enlève les gants, on casse.
On a jeté la notice IKEA, maintenant on casse.
D'accord, donc là c'est la fin, quoi. C'est fini, on arrête tout.
Pour quelques mois.
D'accord. Très bien, bah, ça tombe bien parce que le sujet de ce podcast, c'est justement
la
fin.
La fin.
Donc la fin qui est un sujet qu'on va traiter à trois, contrairement au podcast de la dernière fois, nous avons le retour de Guylaine.
Elle est de retour.
Et donc dans un premier temps, on se posait des questions un petit peu sur la fin quand on joue à une partie, qu'est-ce que ça représente, avec deux grands axes hein, qui sont la fin ouverte, la fin d'un jeu type campagne, où est-ce qu'on va mettre la fin, où est-ce qu'on va s'arrêter, où est-ce qu'on continue, et un autre enjeu qui est la fin terminée et quantifiée, qui sont des conditions de défaite façon jeu de société ou one shot hein, de parties de jeu de rôle qui sont très précises et très définies.
Parce qu'en effet, il y a des jeux de rôle où dès qu'on commence à jouer, on sait grosso modo où on va aller parce que le type de partie ou même le type de scénario présenté présente un type de fin. Je commence par un jeu que j'avais déjà cité dans un des épisodes précédents qui s'appelle Perdu sous la pluie par Vivien Féasson. Et en fait, dans ce jeu, on joue des enfants qui sont perdus sous la pluie, sans leurs parents. Et on sait qu'à la fin, bah, il n'en restera qu'un. Donc déjà, on commence la partie, on sait où on va et on sait que... bah, il y en a quelques-uns qui vont se perdre en route.
Il y a un postulat de départ qui est fort, quoi.
Oui, et qui va tout de suite orienter la partie vers cette fin. Et on sait que c'est là qu'on va inexorablement aller. Donc au final, on voit que le fait de savoir déjà où va la partie, ça va vachement influencer la façon dont on joue. Je pense également à un GN auquel j'ai pu jouer il y a peu de temps, qui s'appelait, évidemment, le nom m'échappe. Ah, oh, merde, je suis désolée, Muriel, ton jeu...
Donc dans Je suis désolé Muriel, qu'est-ce qu'on avait comme...
Bah, grosso modo, on joue des jeunes artistes pendant la Première Guerre mondiale et qui voient inexorablement la déchéance arriver et on sait qu'à la fin, ça va mal finir. Mmh. Enfin, grosso modo, on vit le début de la Première Guerre mondiale et puis peu à peu les gens qui sont, qui vivent les événements de la guerre et grosso modo, ils vivent dans une sorte de squad d'artistes, quoi. Et on sait que ça va mal finir. Et on sait que c'est la déchéance pour nos personnages, quoi.
D'accord.
Moi, ça me fait penser, pour rebondir un petit peu, sur un jeu de société. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeux de société type jeu de gestion de ressources ou des choses comme ça, qui ont des conditions de victoire du type un nombre de tours...
Le jeu, c'est La Vie Bohème. Voilà.
La Vie Bohème.
D'accord, La Vie Bohème, ok. Donc ça ne sera pas, je suis désolé Muriel, ça sera La Vie Bohème. Donc en ce qui concerne un jeu de société, on a souvent des jeux de gestion de ressources où à la fin d'un nombre N de tours ou d'un nombre d'actions données, on calcule le nombre de points de victoire et le gagnant, c'est celui qui en a le plus. Bon, ouais. Moi je voudrais vous parler d'un autre jeu qui s'appelle Ponzi Scheme, qui est un jeu basé sur la notion d'emprunt pyramidaux, en fait. C'est-à-dire, vous êtes en gros un escroc, vous faites des faux dossiers, vous allez contracter des emprunts pour faire des projets bidons, et au fur et à mesure, vous allez faire plus d'emprunts pour rembourser les emprunts précédents, pour rembourser les crédits. Et donc, c'est le système qui a été utilisé notamment par Bernard Madoff et qui lui a valu plusieurs décennies de prison ferme.
C'est
plus
pas
que
un jeu,
siècle.
Ça, Aurélien. C'est la vraie vie.
Ah, désolé, je me suis trompé de podcast, mais je vais quand même essayer de rebondir sur ça. Donc, dans Ponzi Scheme, on incarne Ponzi, qui était un de ses premiers escrocs qui avait fait ça. Et la condition de défaite du jeu, c'est, vous savez, en fait, que vous allez faire des emprunts de plus en plus toxiques, de plus en plus dégueux, et qu'à un moment, vous aurez plus d'argent, vous serez en banqueroute, hein, ça sera terminé. Donc, le jeu se termine quand il y a un des joueurs qui est ruiné. Et donc, à ce moment-là, c'est le joueur qui a le plus d'argent parmi les survivants qui va gagner. Et j'aime beaucoup ce côté, on sait que ça va mal se finir en fait, que le jeu est une descente aux enfers inexorable et qu'à un moment il va y avoir quelqu'un qui va mourir et il faut juste ne pas faire banqueroute le premier au lieu d'être le gagnant quoi.
Je voudrais rebondir quand même sur un truc aussi, c'est quand tu parles de GN, un truc intéressant c'est que le GN, comme c'est un jeu voilà grandeur nature qui se passe dans la réalité, c'est qu'on est forcément limité en temps. Beaucoup plus que quand une partie jeu classique où tout le monde arrive à 19h, mais tu peux partir, ils peuvent partir entre minuit et 3h du matin.
Et puis si t'as pas fini, tu peux faire une session dans 2 semaines.
Voilà, ouais. Alors que le GN, t'as cette limite de temps obligé, t'arrives à telle heure et ça se finit à telle heure que tu le veuilles
ouais.
pas.
Ouais. Ouais, ouais. En effet. Et c'est vrai que ça aussi, ça conditionne la façon dont tu vas jouer, la façon dont tu vas vivre la répartition du temps et où tu vas minimaxer un peu à la façon dont tu utilises les heures qui te sont allouées dans ce jeu-là. et où tu vois l'horloge tourner, et toi, en tant que joueur, tu dis « Oh là là, attends, j'ai plus que 2 heures pour atteindre mes objectifs ou pour réussir à faire cette chose que j'ai envie de faire. » Et déjà, mine de rien, ça a une influence énorme sur notre appréhension du jeu, notre appréhension du personnage, et sur un peu le caractère un peu naturel avec lequel on va faire les choses ou pas. Si tu sais que t'es limité dans le temps, que ce soit en jeu de plateau, ouais, en jeu de rôle, en GN, tu vas peut-être un peu forcer certains trucs, parce que tu sais que t'es limité dans le temps. Alors en jeu de plateau, généralement, c'est moins gênant parce que bah, t'as pas cet aspect, il faut faire comme si c'était vrai. Essayer de reproduire la réalité, t'es juste en train de développer une stratégie en fait, qui s'étale sur une durée donnée. Mais c'est vrai qu'en jeu de rôle et en GN notamment, tu peux un peu avoir ce côté faussé, quoi. Ouais. Ce côté un peu faussé de « bah ouais, mais j'avais pas le temps, donc il fallait... » Fallait faire avancer les choses, quoi.
Et puis imposer une fin comme ça, donner, timer, ça permet aussi de créer une notion de climax, hein, qui est intrinsèquement liée à la notion de fin, bien sûr, puisque un climax intéressant, c'est un moment où on sait qu'on est proche de la fin parce que toutes les choses s'accélèrent et que temporellement plutôt, là on arrive sur un finish, quoi, sur quelque chose qui va s'arrêter.
Ouais. Bah, c'est ce que je cherche à produire. Je généralise, mais c'est ce que cherchent souvent à produire les one-shots en jeu de rôle. Tu sais que c'est un one-shot, de toute façon, voilà, t'auras qu'une partie et ce sera fini. Bon, ben, il faut qu'en X heures, t'arrives à créer de l'émotion, de l'histoire.
Ouais. Il faut y aller à fond, parce que sinon, ça perd un peu de son intérêt. Parce que les gens sentent que c'est une introduction et que tu dis, bon, ben, c'est fini.
Ah, c'est bon, ça. Bah. Alors que quand tu vas aborder une campagne ou juste une partie un peu longue où tu sais qu'il va te falloir 4-5 séances pour la faire, déjà là, tu peux prendre le temps de planter le décor, de bien présenter tes personnages. Et peut-être aussi que ça va influencer sur les types de personnages que tu prends. Peut-être que quand tu vas avoir une partie un peu plus longue, tu vas pouvoir jouer des personnages un peu plus en nuance, qui vont avoir une plus grande évolution, un peu plus fin. Que quand tu vas avoir des parties courtes, des one-shots, bah, peut-être que tu vas te réfugier dans des archétypes avec lesquels tu es assez à l'aise pour pouvoir assez rapidement obtenir un résultat émotionnel ou fictionnel intéressant.
Ouais, c'est vrai que dans les one-shots, on est plus, comme tu dis, dans les archétypes, voire carrément les stéréotypes où on a un peu un condensé de ce que propose le jeu résumé en quelques personnages significatifs avec des traits un peu poussés, quoi.
Ouais. Ce qui semble aussi assez naturel. C'est pareil, quand tu regardes un film qui ne dure que 1h30 ou 2h, ou une série qui dure 4 saisons de 10 épisodes de 45 minutes, la façon de présenter les personnages ne sera pas la même. Tu vas forcément faire intervenir des référents culturels communs pour que les spectateurs puissent tout de suite saisir qui est quoi, etc.
Ouais.
Ce qui pose d'ailleurs la question de la notion de justement nécessité de suite. C'est-à-dire... quand on a des choses qui sont pensées pour avoir un timing précis, si on prend Pascal va nous en reparler juste après le film Alien, je laisse continuer.
J'utilise souvent Alien comme un exemple. Au niveau cinéma, j'aime bien parler de certains films ou des trucs comme une bulle, et comme on en parlait un autre jour, dans le cinéma, t'as la notion de dans le champ et hors champ qui est important, et hors champ, ça, c'est tous les détails qui sont pas présentés à l'écran, etc., mais qui sont présentés. Ça peut être aussi des trucs, par exemple, voir une photo d'un personnage, etc. Ça peut impliquer du hors champ. Si c'est un personnage qu'on voit pas, par exemple, voir la photo de la famille du héros. On voit jamais sa famille, on voit juste une photo, mais ça implique que hors champ, il a une famille, il a une vie, etc. Blablabla, tout ça. Et donc il y a des tas de trucs, tout ça rentre dans le cadre de la bulle du film, et ça pas forcément, le film fonctionne tout seul, le film, le jeu, l'œuvre de manière générale, elle fonctionne tout seul dans son coin, elle a pas forcément besoin de les développer. Et j'aime bien utiliser l'exemple d'Alien parce que en fait Alien, si les suites n'existaient pas, ça rendrait pas le film moins bien, même de mon point de vue ça le rendrait meilleur, mais bon, ça c'est un autre problème. Non, il est déjà excellent, ça le rendrait pas moins bien, et il fonctionne déjà très très bien tout seul. Et c'était pas nécessaire. Après, ça a été fait. Ce qu'on en pense ou on n'en pense pas, je m'en fous. Mais voilà.
En tant que quantité, finalement, Alien, la fin d'Alien se suffisait à clôturer la bulle en tant que telle. Quoi.
En plus, il y a une fin qui correspond à certains pensifs, comme un pensif du film d'horreur. Justement, tout à l'heure, tu parlais du film de S'perdu sous la pluie. Dans le film d'horreur, tu as un pensif qui s'appelle The Last Girl.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que tu as une survivante.
Ouais.
Et c'est très souvent une femme, dans Halloween, dans Alien, comme ça, c'est...
Mais c'est une question extrêmement récurrente dans tout média de fiction, que ce soit une partie de jeu de rôle, une série de bouquins, de mangas, de BD, une série, un film, c'est il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Et il faut savoir dire stop, non, là, c'est maintenant qu'on arrête, après on va faire de la merde. Et pour moi, c'est presque un gage de qualité quand je commence à regarder une série ou quand je m'engage dans une série de BD, de manga, peu importe, de savoir qu'il y a déjà une fin. Ou alors, du moins, il y a déjà une fin de prévue. Et que je sais déjà que ce sera en 4 saisons, 7 tomes, peu importe. Ben, ça me rassure parce qu'au moins, je sais que les scénaristes, ils savent où ils vont. Et c'est déjà bouclé. Ils vont pas essayer de rallonger la sauce parce qu'on leur dit ah, ben, tiens, tu pourrais pas nous faire 10 tomes de plus parce qu'en fait, ça nous fait gagner pas mal de thunes. Ce qui arrive beaucoup trop souvent. Et ce qui donne des résultats tout de même très 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 inégaux, pour être gentil.
Et puis c'est ce que tu disais en plus une fois sur les gammes de jeux de rôle. Moi je me rappelle qu'à l'époque j'avais acheté Pathfinder quand ça sortait tout juste en France, parce que je me disais au moins il n'y a pas 36 000 bouquins.
voilà, le je pense naïf
que, je pense c'était que, avant.
Voilà, je pense que 6 ans plus tard ils ont peut-être rattrapé Wizard of the Coast sur Donjon quasiment.
Ouais, et on peut se poser la question de cette course au supplément. Alors, je sais pas si on est toujours autant qu'avant. J'ai l'impression qu'on se dirige vers des gammes plus petites maintenant avec les nouvelles gammes qui sortent. Je veux dire, une gamme qui a été commencée il y a 3-4 ans, elle va peut-être pas être aussi longue que les gammes qui sont sorties il y a 10 ans. Mais voilà, tu regardes avec Cthulhu et compagnie. Enfin, il y a un moment où tu te dis à quoi bon produire 10 000 pages de contenu avec tous les ans un nouveau contenu, etc. À quoi bon en dehors d'arguments purement marketing. Et encore, je suis relativement plus tolérante et gentille avec tout ce qui est supplément qui va proposer du scénario, de la campagne.
Mais parce que ça donne de la matière quand même de jeu pour les joueurs et pour les maîtres jeux.
Bah, certains te diraient qu'un supplément qui va développer, par exemple, je sais pas moi, une peuplade bien précise ou une planète précise, ça donne aussi de la matière.
Ouais.
Et c'est pas faux.
C'est ce qui avait été aussi reproché à White Wolf avec tout son univers, enfin l'ancien monde des ténèbres où fin il y avait je sais pas combien de suppléments pour vampires, je sais pas combien de suppléments pour loup-garou, que c'était le bordel, que les suppléments se contredisaient les uns les autres et que plus personne ne sait quoi faire. Ils ont fait bon, on râle le cul, on reboot tout quoi.
Mais surtout qu'il y a un moment où c'est compliqué de continuer à travailler avec les mêmes personnes sur 20 suppléments d'affilée quoi. Il y a un moment où t'as forcément un traducteur qui change à un moment, un auteur qui est plus exactement le même et qui n'a peut-être pas utilisé le même vocabulaire, c'est compliqué de garder une même uniformité. Donc est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas juste dire non, non, là on arrête, on limite la gamme parce que 20 bouquins pour faire du jeu de rôle, bah, peut-être que c'est too much quoi.
Je vais faire une incursion au niveau du jeu vidéo un petit peu pour changer un peu. Oh là là, voilà, qu'est-ce qu'il fait pour vous parler d'un jeu qui me tient particulièrement à cœur, hein, qui s'appelle Bastion. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est justement pour rebondir la logique éditoriale, en fait, parce qu'il y a cette notion de fin de série, la logique éditoriale du développeur de Bastion, donc qui s'appelle Supergiant Games, c'est de dire, bah, on fait un jeu et c'est tout. C'est-à-dire, en fait, on fait un jeu, ensuite on en fait un autre, ensuite on en fait un autre. Là, ils vont sortir très bientôt leur troisième jeu, qui n'a rien à voir avec les deux précédents. Et ils ont quand même une patte, hein. Ils ont des éléments qu'on retrouve, des éléments de gameplay. On a, dans les deux premiers, donc Bastion et Transistor, on a un narrateur, plus ou moins. Bon, voilà, donc il y a un peu quelque chose, mais la proposition créative et artistique est différente. Et ils prennent le parti de dire que, bah voilà, Bastion, c'est fini. Ce qui se passe après le jeu, c'est, bah, pour te reprendre, Pascal, un peu du hors-champ, quoi. Voilà, la suite, bah, ça appartient à ce qui se passe dans Bastion. Et justement, pour parler un peu de ce jeu en particulier, donc alors attention, spoiler alerte, donc vous pourrez reprendre votre enregistrement dans une minute si vous voulez pas être spoilé de la fin de Bastion. Donc en gros, l'idée, c'est que dans ce jeu, pour reprendre cette notion de climax, hein, pour reprendre la notion précédente, on a en fait c'est un jeu dans lequel on a, voilà, différentes armes, on se bat contre des monstres divers et variés, etc. Et sur la fin, on arrive à un moment où on arrive sur ce qui est censé être le climax, donc vraiment le moment principal du jeu, le combat, le boss final qui est un peu suggéré contre une personne qu'on a récupérée, mais en fait c'était une espèce de traître, etc. machin. Et on se retrouve donc dans le clan des entre guillemets gros méchants, les guillemets sont gigantesques vu le jeu, mais bon voilà, les gens sauront de quoi je parle. Et on se retrouve face à ce personnage avec le narrateur qui dit que voilà, ça va être un certain combat, machin. Et en fait, ce personnage s'est fait tabasser quasiment à mort par le reste de sa tribu et se retrouve à moitié mort. Et on a le choix, en fait, de le prendre sur nos épaules. Et là, il se passe quelque chose de terrible parce que juste avant, enfin, c'était vraiment, on était dans une escalade de la violence. On se battait avec un espèce de bélier à main qui était un tronc d'arbre. Enfin, bon, n'importe quoi, quoi. On était vraiment super balèze. Et en fait, en prenant ce bonhomme dans les mains, on n'a plus d'armes, on est désarmé, on est très lent, on est vulnérable, il y a une musique triste qui se met à jouer et on marche très lentement vers la sortie alors qu'on se fait canarder à l'arbalète et taper à coups d'épée par les différents membres de la tribu et on se dit bah je vais crever en fait. Enfin, voilà, et moi je me suis vraiment dit ça parce que voilà, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est bien plus qu'un jeu, on oublie qu'on est dans un jeu. Et en fait, non, ça va, les gens se décalent un peu par respect pour l'action du joueur. Mais là, on est vraiment en face d'un anti-climax, mais qui est quand même un climax, parce qu'on est dans un climax émotionnel très fort, et pourtant, c'est pas articulé autour du combat. Donc la fin, en fait, tranche avec tout ce qui est proposé par le reste du jeu, et ce côté de jouer avec les poncifs, en fait, en quelque sorte, de la bonne fin, entre guillemets, c'est quelque chose qui est très intéressant, et qui est très bien fait dans ce cas-là, quoi.
C'est marrant ce que tu dis, parce que moi, en jeu vidéo, j'ai souvent ce que j'appelle le syndrome du dernier combat. À savoir que quand j'arrive au dernier combat d'un jeu, souvent d'un RPG ou quoi que ce soit, eh bien en fait, souvent je le fais pas ce dernier combat, parce que je sais qu'il n'y a rien après. Ouais. Et voilà, bon, bah, j'aurais gagné, machin, j'aurais la cinématique de fin, et puis basta.
Ouais. Et ouais, et puis quand l'intérêt du jeu, c'est son gameplay, que c'est tout ce que tu as vécu avant qui fait l'intérêt du jeu, la fin, au final, tu t'en fous.
Ouais.
Et voilà, et t'as eu ton expérience, t'es content. Et voilà, j'ai un peu le même truc avec des jeux vidéo, mais aussi avec Carcassonne. Carcassonne, j'adore y jouer. J'adore ce jeu, et voilà, c'est un. Bon, c'est pas foufou, hein. Et puis, dernier tour, tout le monde a fini, on va compter les points, et moi je vais faire du thé parce que je m'en fous complètement.
Ouais.
Les points, alors, déjà d'une, ça prend 3 plombes à compter. Ensuite, moi je me suis amusé, j'ai construit des villes, j'ai fait des routes, j'ai posé des fermiers.
Puis le thé c'est bon.
Et le thé c'est bon. Mais donc voilà, et donc je finis pas vraiment le jeu, en fait, quelque part. Mais j'ai eu mon expérience.
C'est marrant parce que moi, c'est vrai que pour rebondir hein, sur le côté fin, moi j'ai vraiment besoin de ce comptage de points parce que quand je joue, voilà, c'est aussi des objectifs de jeu. Moi, je joue pour gagner.
Et belle mentalité, bravo.
Voilà, bravo. Putain, le mec, il respecte rien. Quoi. Et donc c'est vrai que moi, je fais ma stratégie pour avoir le maximum de points au final. Et moi, j'attends la fin du jeu, mais pour une autre raison que toi, pour savoir si j'ai gagné ou pas. Quoi.
Ouais, je pense que ça tient beaucoup au fait que je sais que je vais pas gagner. Donc. voilà. Mais sinon, pour dire ce que tu viens avec Bastion, je pense quelque chose que tu disais avec Bastion, c'est qu'il y a une chose qu'on peut dire, c'est que même si une fin n'est pas en adéquation avec la façon dont le jeu s'est déroulé, elle peut être en adéquation avec le thème, avec l'ambiance et des choses comme ça. Et c'est super important de respecter ça quand on fait une fin, en fait. Parce que je vais juste faire une petite note sur un bouquin qui s'appelle Hamlet Beat Points, qui me semble être écrit par Robin Laws, donc un auteur de jeux de rôle qui est l'auteur de Feng Shui par exemple. Et c'est un bouquin qui ne parle pas de jeux de rôle. Et il dit voilà, je vais faire un bouquin qui ne parle pas de jeux de rôle, mais c'est utilisable quand on écrit un scénario. Et en fait, c'est simplement que ça décrit une mécanique de narration. Dans la mécanique de narration, on connaît tous, on a tous été à l'école, et tous à l'école, on a entendu, une histoire, c'est une situation initiale, un événement
perturbateur,
des péripéties et un dénouement. D'accord. Et lui, il nous dit, on peut découper une scène, enfin un scénario, un film, tout ça. Il se base sur 3 choses. Il se base sur Matrix, sur Hamlet et sur une troisième œuvre dont j'ai oublié tout de suite. Et en gros, il les découpe en chaque scène. Il prend chaque scène et il te dit. Il y a 3 manières que cette scène se finisse. Il y a, je crois, il y a 4 types de scènes. Il y a les scènes de progression, les scènes d'apprentissage, les scènes, etc. Enfin, voilà, etc. Et il y a 3 manières. Soit ça termine de façon positive, soit de manière égale, soit de manière négative. Et en fait, en faisant ça, en les mettant bout à bout sur un diagramme, eh ben, il te fait une sorte de courbe de l'histoire. Et en fait, la façon dont tu vas finir ton histoire, eh ben... souvent, c'est vachement bien quand il y a une différence avec la façon dont ça commence et la façon dont ça se progresse. Il y a beaucoup de films contemporains ou même de jeux contemporains, quand ils sortent, le principe c'est au début, tu as une situation initiale, les millions perturbateurs, c'est l'apocalypse, tout se casse la gueule. regardez la plupart des films, la plupart des trucs, c'est ça. Hein, c'est le méchant débarque qui pète tout, la famille du héros se fait défoncer. Enfin bref, tu pars de très très bas. Même les films d'animation pour enfants, c'est en général, c'est il se passe un truc, paf, on se retrouve très en bas et on tout en bas et on passe le, tout le film à monter progressivement.
Ouais, la crise, l'adversité qui va générer
voilà.
un
le
combat
film d'horreur, par exemple, c'est l'inverse. Mmh. On commence haut, on part en vacances à la campagne. Et merde, il y a un type avec une tronçonneuse et tout au fur et à mesure on se fait tuer un par un et on descend au fur et à mesure et t'as des films qui font des courbes, qui montent, qui descendent, etc. Et en fait l'un des trucs intéressants de ce livre, c'est de la sensation que chaque scène en fait a une fin et c'est la fin de chaque scène qui est intéressante et c'est toutes les scènes mises bout à bout, un peu comme toutes les sessions d'un jeu de rôle en fait. C'est, ce qu'il propose avec ce bouquin, c'est d'analyser la fin de chacune de ces parties ou chacune de ces scènes au, même de, au sein d'une session pour analyser comment est le truc et comment faire une fin qui va être en adéquation avec tout ça.
Ça me donne envie d'analyser mes principes de jeu de rôle.
Tu sais, à chaque fois que tu finis une scène, tu mets un petit plus ou un petit moins ou un petit égal. Et
tu regardes... vais devenir un monstre de Excel si je fais ça.
Et voilà. Et t'as des trucs comme ça. Et tu peux avoir une fin comme Bastion où t'as une montée en puissance pour tout truc parce que c'est un action RPG où tu débloques des armes, tu deviens de plus en plus puissant comme tu dis. Et à la fin, paf, tu choisis de pas faire ça. Tu choisis de pas aller au bout. Moi j'avais eu un syndrome comme ça, mais le même genre de fin, tu vois, mais en version nulle, c'était L'Ombre du Mordor. Où ça te fait, tu gagnes des pouvoirs, tu infiltres, tu commences à contrôler des orcs, tu deviens une espèce de super badass dans la terre du milieu. T'as un ou deux combats de boss à peu près corrects, un qui est assez moyen, et t'arrives devant le grand méchant, et c'est une cinématique.
Ah et t'as pas de combat.
Et il n'y a pas de combat.
Ah zut.
Et il y a rien.
Oh c'est nul.
Et voilà.
T'étais stuffé comme un malade avant d'entrer dans la porte qui active la cinématique et bim quoi.
Ouais voilà. C'est
ouais
ça.
Donc là tu t'attendais à un climax et au contraire de Bastion où t'as eu un anti-climax mais donc aussi un climax parce que émotionnellement ça te retourne le cerveau.
C'est un non-climax.
Là t'as eu une absence quoi, genre un manque.
Et en plus t'as comme une différence qui est comme assez notable, c'est que dans Bastion même si la scène est relativement scriptée entre guillemets, tu restes en contrôle du personnage.
Oui, tout à fait. Bah, t'as raison.
Ouais. Ah c'est dur. Moi, ça me rappelle la fin du jeu vidéo Fury aussi. Fury, c'est tu commences, t'es prisonnier. Il y a un mec qui te torture et qui prend plaisir à torturer. C'est un vrai bâtard, c'est un sale enfoiré. Et donc, du coup, t'es bien content de te libérer et de lui en coller une. Puis, au fur et à mesure, c'est un jeu où il n'y a que des combats de boss. Chaque boss que tu bats, voilà. Et à chaque fois, il y a une petite progression. Au bout d'un moment, t'en as qui commencent à dire non, mais on voulait t'aider. C'est toi qui qu'est-ce que t'es en train de faire et tout et ça progresse comme ça et spoiler alert je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast d'ailleurs mais c'est pas grave
c'est possible enfin en tout cas on a déjà parlé tous les deux mais je sais pas si
spoiler alert le dernier boss en fait elle ne se bat pas elle se défend pas
ouais t'en avais déjà parlé
et ça aussi c'est fort surtout que c'est un jeu où t'as pas de montée en puissance du personnage c'est uniquement le skill du joueur qui augmente donc tu te sens vraiment dans le truc. Et là, t'es face à un personnage, et au début, moi j'étais là, quand est-ce qu'il m'attaque ? Parce que, en plus, c'est tout un jeu où t'es vachement dans la contre-attaque. Tu esquives, tu attaques. Et du coup, t'es là, t'es prêt à esquiver, à choper un truc, mais il n'y a rien qui vient. Et au bout d'un moment, tu dis, je vais taper. Et puis tu tapes, et puis elle fait rien. Mais fais quelque chose, je sais pas. Et tu finis par la tuer.
C'est
et...
un bug, c'est pas possible.
Ouais, voilà. Et tu finis par la tuer, tu fais merde. Et après, bon, re-spoiler, la cinématique, t'as le générique de fin. Et pendant que le générique de fin qui dit machin, tu débarques sur la planète et tu te rends compte que quand tu marches, ton personnage marche, il ne court plus. Il ne fait que marcher. Pendant que tu marches, tout se noircit autour de toi. Et tout meurt, en fait. Toute la vie meurt. Et là, tu fais. Peut-être fait une connerie en fait.
Alors pour le coup, je vais pas détailler parce que c'est un jeu un peu comme Fight Club au sixième sens dont on ne parle pas. C'est Undertale hein, donc au niveau jeu vidéo. Voilà, je me contenterai de dire que ceux qui ont joué à Undertale probablement retrouveront des choses similaires. Enfin voilà, j'en dis pas plus, mais ça m'a pensé à ça.
En tout cas, c'est des éléments qui peuvent être intéressants à incorporer en tant que MJ et ou du moins à avoir à l'esprit parce que c'est. Ça peut être assez difficile quand tu es dans une campagne de jeu de rôle où ça fait longtemps que c'est là. Il faut finir. Mais comment finir ? Comment finir quand tu as 40 pistes d'ouvertes, 40 intrigues secondaires où tu pourrais rechoper un film et rempiler pour 3 séances sans souci ? Comment est-ce que tu fais pour apporter une conclusion pour chaque personnage pour qu'aucun des joueurs se sente frustré et se dise « Bah ouais, mais attends, moi je voulais amener mon perso à tel endroit, enfin, à tel endroit, pas forcément géographique. Hein. »
T'as la solution facilitée, c'est faire l'épilogue.
Ouais, mais ça...
Sans le jouer, en fait, juste en racontant, quoi.
Ça peut être bien. On avait eu une campagne, j'en ai déjà parlé, c'était notre campagne de la oufitude Itrasby, où on jouait à une dizaine de joueurs en table tournante par Hangout. Et bon, bah, à un moment, on a voulu conclure la campagne. Et il a fallu apporter un peu bah, une conclusion pour chaque joueur. Et notre MJ a fait une chanson. Il nous a fait un générique de fin.
Oh. Ah, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien. Il y a vraiment un côté appropriation et personnalisation. Ouais. Quoi.
Et c'était comme vraiment une super transition, une super, un hommage quelque part à ce qui s'était passé, à nos personnages et tout. Mm. Et c'est une super façon bah, ouais, de faire une transition, de dire au revoir aux personnages. Et, mm. Et voilà.
Ah, c'est cool.
Moi, c'est vrai que j'ai jamais terminé une campagne, enfin en tout cas une grosse campagne de jeu de rôle, quoi. C'est quelque chose d'ailleurs de très intéressant, quoi. C'est, ouais. Ça s'est terminé faute de combattants, quoi. Un maître jeu qui est parti habiter ailleurs, etc. Enfin bon, voilà, des campagnes en suspens. Par contre, c'est vrai que sur la question de ce qu'on a pu vivre au sein de cette campagne, en tout cas d'un arc scénaristique, parce que c'est vrai qu'on peut parler, voilà, on a au moins terminé des arcs scénaristiques précis. Où voilà, on arrive sur une sous-conclusion en quelque sorte. Et un truc qu'on a utilisé, qui est un procédé dont on peut parler un petit peu, c'est le procédé de l'ellipse. Un procédé finalement qui est tout simple, mais bien utilisé, peut avoir un vrai intérêt pour justement permettre de faire évoluer un statu quo, ou de dire, ben voilà, là on va vers une première fin d'un premier élément, mais il y a une accélération qui va se passer après, qui est conçue d'éléments qui ne sont pas forcément très intéressants, et qui permet de faire une coupure, quoi, la sous-fin en tant que rythme.
D'avoir une sorte de sous-conclusion, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement.
De toute façon, l'ellipse, c'est un truc qui est extrêmement utile parce que ça permet de rétablir le quotidien, de rétablir la réalité, même dans une aventure, dans une narration.
Mm.
Parce que sinon, en fait, c'est un peu le syndrome de... tout se passe dans l'espace d'une semaine ou moins d'un mois, et une fois que la vie des personnages principaux est devenue fantastique, elle ne cesse jamais d'être fantastique, mais à un point où ça en devient fatigant et que ça ne s'arrête jamais, comme je suis en train de ma phrase qui ne finit pas et que machin. Et il faut réétablir des fois un truc de réel. C'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà parlé, The Worf Effect.
Non.
The Worf Effect, c'est un effet narratif. C'est vous prenez un personnage que vous établissez comme super balèze. Worf dans Star Trek, par exemple. Je crois que c'est Deep Space Nine, je sais plus. Et en fait, comme ce personnage est super balèze de base, à chaque fois que vous voulez qu'un personnage, qu'un méchant ait l'air très méchant, et ben il tape la gueule du personnage qui est très très fort. Sauf que du coup, le personnage qui est très très fort se fait taper la gueule dessus tous les deux épisodes, et en fait, il a l'air nul.
Ah, comme Vegeta dans Dragon Ball Z, au final.
Ouais, voilà.
Finalement, c'est un personnage qui ne gagne absolument aucun combat. Ouais, quasiment, quoi. Mais c'est un personnage qui est super. Ouais, voilà, effectivement, c'est ça.
Ouais, ou le syndrome que tu retrouves dans 90% des shonen, où en fait, à chaque fois, l'ennemi d'après doit être plus fort que celui d'avant.
Exactement.
Ouais. Ouais.
Et l'ennemi qui vient ensuite, faut qu'il soit encore plus fort. Du coup, faut que le héros, il soit encore plus fort. Mmh. Et, oh là là, mais mon Dieu, il est capable de détruire une ville. Mmh. Oh mon Dieu, mais il est capable de détruire une région. Mais il est capable de détruire un pays. Mais une planète. et à la fin, ça en devient ridicule. Et tu fais, non mais c'est bon, vous nous refaites la même chose depuis le début. Enfin,
On a compris.
Tiens, puisqu'on parle de conclusion nulle aussi, je me rappelle d'un arc narratif de Naruto où... Ouais.
On s'aventure vraiment sur de nouveaux terrains pour la dernière saison. C'est ouf!
L'arc narratif où le méchant, enfin, il court après le méchant pour je sais plus combien de trucs. Ils finissent par le trouver.
Cinq tomes.
Ouais. Donc 215 épisodes, quoi. Et au moment où ils le trouvent, en gros, les mecs ils attaquent le village et tuent tout le monde. Naruto va lui parler 5 minutes. Le mec fait: oh, j'ai compris que j'étais méchant, et il ressuscite les gens.
Ah oui, c'est extraordinaire. Bah d'ailleurs, ça c'est le bon. Alors ça, je voulais garder pour la fin, mais je voudrais vraiment qu'on parle, qu'on s'arrête et qu'on fasse peut-être un petit moment de condoléances pour cette fin, ce type de fin qui est tout cela n'était qu'un rêve.
Nous vous demandons donc une minute de silence en respect pour cette fin. Bon, on va peut-être pas faire une minute.
Non, c'est vraiment un peu long. Hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'abandon narratif et créatif, quoi. C'est genre,
exactement.
Bon, bah voilà, il s'est passé des trucs, mais ça ne compte pour rien du tout. Ça n'a aucun intérêt, il ne s'est rien passé.
Aucune conséquence.
Voilà, c'est super.
C'est rigolo. Enfin, tu peux l'exploiter, par exemple, dans le cas d'une partie de jeu de rôle. Quand tu veux faire, entre guillemets, une séance n'importe quoi qui sort complètement des sentiers battus, et où tu dis, ah bah tiens, imagine, on utilise nos persos, mais au Moyen-Âge et pas dans l'espace, tu vois. Bon, tu te fais une séance, tout ceci n'était qu'un rêve, où tu décales complètement le curseur du jeu initial, juste bon, pour déconner, pour triper, quoi.
Ouais, quand mais c'est attendu, je pense que c'est bien. Par contre,
quand
c'est
quand
un peu
quand tu te mets d'accord, tu vois, enfin, bon.
La récompense finale, quand t'atteins le climax, en tant que climax, c'est dur, quoi. Ah, c'est non, vraiment non,
c'est,
dur.
C'est plus possible, faut arrêter. Il y a des choses interdites maintenant. C'est comme écrire des choses sur des vampires et des loups-garous, on n'a plus le droit maintenant.
C'est bon, là. Fini, c'est fini. On a fait le tour. Hein.
Faut arrêter maintenant.
Bon, les loups-garous qui brillent, tout ça. Non, je me trompe.
Non, c'est les vampires qui brillent, non
Putain, un loup-garou qui brille, ce serait trop bien, sérieux.
Un loup-garou avec des
So
des
glamorous.
Oh yeah. Ouais,
j'attends toujours les loups-garous L'Oréal, tout ça, avec le poil soyeux.
Alors, pour revenir à des notes un peu plus sérieuses, moi j'ai une question. Elle, c'est aussi bien en jeu de rôle qu'en jeu vidéo. Alors, en jeu vidéo, on y a déjà un peu répondu, mais aussi bien en jeu de société. La fin est-elle nécessaire au plaisir ?
Un premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est en jeu de société, des jeux où finalement on s'arrête quand on en a marre ou quand le repas est prêt, quoi. Hein. Mmh. Alors, les jeux de cartes traditionnels façon tarot belote, bon, enfin, jouer de façon ambiance tranquille, évidemment, parce que les tournois c'est encore autre chose, mais si on parle de ça, si on parle de jeux aussi d'ambiance comme Imagine ou des choses comme ça.
Concept.
Ouais, voilà. Bon, bah, finalement.
Oui, même un jeu comme Dixit. Ouais. Bon, voilà, quoi. La fin. Voilà.
Au niveau jeu vidéo, moi il y a Skyrim qui vient tout de suite en tête parce que personne n'en a rien à battre de la quête principale.
Oh, mais tellement. Voilà. J'ai 28 quêtes secondaires activées, mais la quête primaire, j'en ai rien à foutre. Quoi.
Tu dois sauver le monde. Attends, je vais récolter des choux. Ouais, je sais pas si vous avez cette photo sur internet du mec qui tombe sa pelouse pendant qu'il y a une tornade.
Ah non.
J'ai fait mes 4 secondes.
Attendez, je dois ramener la sacoche du paysan d'à côté, voyons.
Sinon, au niveau jeu de rôle, eh ben, en tant que MJ à 95% d'improvisation, eh bien, je crois que je n'ai jamais apporté de conclusion à une campagne, vraiment.
Ouais, mais en même temps, pour moi, la conclusion du scénario, elle est importante pour après pouvoir continuer, repartir sur d'autres choses. Ton personnage, il lui arrive une aventure.
Ouais.
Il est important que cette aventure, elle prenne fin. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres après. Mais que ton personnage, il ait cette conclusion, il ait ce achievement unlocked, alors même s'il peut foirer, hein, mais qu'au moins ce soit un arc narratif qui soit fini, qui ait une influence sur ton personnage et qu'il puisse du coup évoluer. Et quelque part, le fait que ton personnage évolue, ça pousse vers une fin. Parce que ça pousse inexorablement ton personnage vers une mort certaine, sauf s'il est immortel. Mais bon, ça fait avancer ton personnage et ça le tire vers un autre personnage qui est celui qu'il deviendra, quoi. Après, est-ce que tu es forcément obligé de finir et de dire « Bah maintenant, on arrête de jouer à ce jeu-là »
Ouais.
Ben, c'est un exemple, justement, qui vient en tête par rapport à ça, c'est la notion de réutilisation des personnages. Où c'est vrai qu'une fois qu'une campagne, qu'un scénario, bon, qu'une forme jeu de rôle narrative, quelle qu'elle soit, est terminée, ou en tout cas soit proche d'une fin provisoire ou définitive, hein, rien n'empêche finalement de réutiliser ce personnage dans d'autres contextes. Hein. Notamment quand un maître du jeu va réutiliser un personnage dans une campagne qui est terminée, mais pour par exemple une suite ou alors d'autres joueurs dans d'autres contextes, des choses comme ça.
Le joueur devient un PNJ, que tu rencontres un vieux sage et que tu te rends compte que le vieux sage, en fait, c'est ton ancien personnage ou un truc comme ça.
C'est ça.
Je sais pas si je suis très d'accord avec vous sur ce point-là. Parce que pour...
Faut pas que ça devienne de l'abus du fanservice à deux balles.
Non, mais même sans ça, tu vois, moi, je sais pas si j'aimerais voir mes anciens persos être réutilisés sur d'autres parties, pour tous les cas. Il y a des cas où ça me dérangerait, il y a des cas où ça me dérangerait pas, je pense. Mais quelque part, quand t'arrives déjà à la conclusion d'une campagne ou d'une partie, bah, tu te prépares à dire au revoir à ton personnage, tu le pousses vers une conclusion, vers une fin pour ce personnage-là. T'as pas forcément envie de savoir ce qui va se passer après.
Ouais.
T'as envie de laisser le flou et de laisser toutes les possibilités ouvertes, parce que justement, tu ne peux pas amener ce personnage plus loin. Donc tu l'amènes à une conclusion jusqu'à un instant T, qui est celui de la fin de la campagne, la fin du scénario, ce que tu veux, et t'as pas forcément envie de le pousser plus loin, ou du moins, t'as envie de laisser toutes les possibilités ouvertes pour ce personnage-là. Que le réintroduire après, ça force une direction que t'as peut-être pas envie de voir, t'as peut-être pas envie d'imaginer ça pour ton perso.
Ouais. Et c'était peut-être pas nécessaire non plus
dans
le cadre. C'est un peu ce qu'on parlait quand je parlais de Bulle, tu vois, par exemple.
Ouais.
Pour l'exemple d'Alien, les gens qui sont très très fans d'Alien vont te parler de la Wayland Yutani, enfin du coup dans Prometheus tout ça ils reprennent Wayland tout ça etc, les marques, tu vois les logos partout etc, et en fait dans le premier Alien le logo Wayland, c'est pas Wayland Yutani, ça s'était apporté dans le deuxième avec James Cameron, t'as juste le logo Wayland sur les costumes, Par contre, la compagnie n'est jamais nommée. Ils l'appellent la compagnie dans les dialogues. C'est juste les gens qui font gaffe aux détails et qui voient le truc. Mais du coup, en fait, si tu réfléchis, tu regardes le film Alien, est-ce que tu as besoin d'en savoir plus que ça sur cette fameuse compagnie? Non. Par contre, qu'est-ce qui a été développé dans chaque film qui a suivi? C'est justement tout le mythos autour de ce truc-là. Et moi, c'est un truc imaginé dans le fait qu'il y ait des suites.
C'est enfermant. Au final.
C'est que dans le jeu de rôle, pareil, en fait, au niveau des... Excuse-moi, du coup, juste pour...
Conclure ce que je disais, vas-y.
Ouais, c'est que c'est comme dans le jeu de rôle, en fait. Je trouve que des fois, dans les jeux de rôle, où il y a beaucoup de suppléments de contexte et tout, qui t'expliquent un background hyper détaillé, au millimètre de poil de cul près, dans le bouquin...
Ouais, l'imagination pourrait faire mieux, parfois, quoi.
Bah, c'est pas que ça pourrait faire mieux, mais moi, je me sens enfermé et j'ai du mal à des trucs. Et des fois, il y a des machins, je me dis, je vois le jeu, j'ai juste envie de dire, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire autre chose. J'adore le système, je le trouve super bien, il y a des super bonnes idées, il y a des trucs dans le background de base qui sont vachement bien. Mais voilà.
Et proposer une direction, ça veut dire, c'est comme ça que ça va se... Enfin, ok, moi, ça me fait penser un peu à... Ok, là, on va rentrer dans les vrais sujets, les sujets qui font mal. Moi, ça me fait un peu penser à Star Wars 7.
T'es sûr que tu veux mettre les pieds?
Je vais tenter. Je prends les risques, j'en prends la responsabilité. Ou c'est vrai que après Star Wars 6, qui est sorti il y a un certain temps, ça laisse effectivement une ouverture à plein de choses, alors qu'il a été effectivement approprié par l'univers étendu, etc. Mais même en dehors de ça, pour les gens qui regardent les
différentes
films.
Rééditions des films avec les fins modifiées, etc.
Oui, non, mais d'accord, ok, bon, si on accepte tout ça, voilà, tu prends la fin du 6, t'as quand même un truc ouvert et tu dis, Luke Skywalker va reconstruire les Jedi un petit peu, voilà, bon, etc. Et c'est vrai que personnellement, j'ai quelques soucis avec Star Wars 7, je vais pas les détailler ici, mais voilà, c'est vrai que j'aurais préféré finalement ne pas voir en fait Star Wars 7.
Reste là,
ouais. Voilà, qu'on en reste là et qu'on dise ok, là on a Star Wars 6, et finalement quelqu'un derrière a pris le scénario des Star Wars et a dit ok, je propose mon interprétation de ce qui va se passer après pour en faire un produit créatif et imaginaire, et mais sauf que du coup ça devient canon, et ce qui aurait pu être ouvert et donc à la libre interprétation de chacun pour laisser le fantasme et la créativité, peut-être aurait été une fin plus riche que là ce qui a été fait, quoi. En tout cas, c'est prendre un risque.
En fait, moi, avec le jeu de rôle et aussi dans une certaine mesure avec les produits audiovisuels, j'aime bien qu'on me donne une figurine en pâte à modeler. Ça reste de la pâte à modeler. Donc je peux la modifier, tu vois. C'est que si on me file une figurine en pâte à modeler séchée, je peux plus la modifier et du coup je suis obligée de jouer avec cette figurine là. Je peux pas l'ajuster à mes envies. Et du coup, c'est en ça que moi, j'aime pas quand il y a 40 000 suppléments, parce que j'ai l'impression qu'on m'impose trop de choses et qu'on me laisse plus de marge de manœuvre, etc. Ça, on pourrait très bien me dire, t'as qu'à pas acheter le supplément. Bah oui, tout à fait. Et quelque part, faut peut-être le prendre comme ça. Le supplément n'est qu'une proposition. Voilà.
T'as beaucoup d'auteurs qui le disent. Ils disent
bien sûr.
Voilà. Ils disent même au niveau, et ça fait rager sur les forums, mais c'est ça qui me fait rire, c'est quand des gens posent des questions à des écrivains de jeux de rôle et que l'écrivain fait non, mais tu fais ce que tu veux, je m'en fous.
Mais écrire, ce n'est jamais que proposer.
Ouais,
voilà. Enfin, en tout cas, en jeu de rôle. Mais en même temps, toi, si tu le lis en tant que MJ ou en tant que joueur, tu vois, ça va un peu te dire si je joue pas comme ça, ah là 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 là. Et ça peut être quand même, ça peut générer de la frustration, un petit côté un peu irritant, tu vois.
Ouais.
Donc voilà. Il faut savoir s'arrêter et il faut savoir aussi ouvrir ses fins.
Et aussi accepter de ne pas répondre à toutes les questions. Et faire exprès de ne pas répondre à toutes les questions.
Ouais. Oui, parce qu'au final, une partie de jeu de rôle qui finit par répondre à absolument toutes les questions qu'avait posé le scénario, c'est peut-être un peu...
Ça dépendra du jeu. Si on est sur un truc très très basique de la bonne vieille fantasy avec des gros méchants, du machin, tiens. Ok, mais dès que tu dois avoir un peu de mystère ou un peu d'horreur ou un peu même de quelque chose, il faut qu'il y ait un fond, il faut que tu laisses du mystère parce que c'est le mystère qui va...
Ouais, même une ouverture pour les personnages, genre si t'as une intrigue amoureuse qui s'amorce, est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas, tu sais pas, est-ce que tel perso va réussir à prendre sa revanche sur tel autre perso qui l'a trahi, tu vois, enfin, laisser des ouvertures, je trouve que c'est toujours intéressant.
Parce que tout n'est pas toujours résolu dans la vie. Et puis si on parle de fin, la vie ça s'arrête quand on meurt.
Sur ces paroles tout à fait joyeuses.
Voilà. Du coup, je pense qu'on peut dire que c'est le mot de la fin.
Je me disais aussi 37 minutes sans jeu de mots pourris de la part d'Aurélien pour le dernier podcast de la saison, il y a un problème.
Je me suis retenu pendant le podcast jeu et humour en plus, je suis très très fier de moi. Voilà, c'est ça.
Bon, trois mois un gâteau.
Cool, c'est chouette. Bon, après, c'était un podcast que je trouve qu'on a enregistré qui est quand même assez moyen, parce qu'il faut bien le dire, la fin justifie les moyens.
Je retire le gâteau.
Bah, nous nous excusons que vos oreilles aient à subir ces ignominies proférées par Aurélien.
C'est pas moi.
Mais bon. En tout cas, on vous remercie de votre écoute et on espère que ce dernier podcast vous aura plu.
Et en attendant,
jouez bien.